Chapitre 8. Expédition de Chine, Canton, mœurs chinoises, fabrique de porcelaine de Qing Te Ching, ruines de l'abbaye Saint-Martin, le phare. Quelques jours se passèrent avant que les jeunes collégiens revissent M. Le Troidec et l'officier de marine. Ces messieurs avaient été appelés à Brest pour leurs affaires, et ce ne fut que dans la semaine qui suivit la partie de mer qu'ils revinrent à la campagne. M. Frédéric n'attendit pas que les enfants vinssent le prier de reprendre le récit qui avait pour eux tant de charme. Il se présenta le lendemain de son retour, après le déjeuner, chez Mme de Kerdoret, et il obtint facilement que ses petits amis l'accompagnassent dans une excursion au-delà du phare Saint-Mathieu. Il devait se rendre à une ferme située à 1 kilomètre plus loin. Les deux cousins furent prêts en un moment et l'on partit. Chemin faisant, l'officier reprit, sur les instances de ses petits amis, l'histoire de la campagne de Chine. « Nous étions arrivés à Hong Kong, dit-il, si vous vous le rappelez, au printemps de 1860. En attendant le moment de remonter vers Pékin, j'eus l'occasion de visiter plusieurs villes curieuses et d'étudier les mœurs des habitants. Je vous parlerai surtout de Canton, dont la population réunie dépasse 1 million d'âmes. Il y a la ville flottante et la ville européenne. Celle-ci est divisée en 4 sections. Pendant longtemps, les Européens ne pouvaient pénétrer, sans danger de mort, dans les autres quartiers. À l'époque où j'y fus, tout cela avait changé. Quand nous passions dans les rues, les Chinois nous regardaient, mais sans démonstration de colère ou de vengeance. Ils commençaient à comprendre que nos relations commerciales devaient les rendre un jour plus riches et plus libres. C'est dans la ville européenne que sont groupés tous les corps d'État. Deux des rues, pavées de dalles larges et propres, et couvertes de grandes bandes de calicot, afin d'abriter contre les ardeurs du soleil, ressemblent à des passages dont toutes les boutiques sont de vrais bazars. Leur aspect est des plus curieux quand, le soir, on voit allumer des lanternes aux 1000 couleurs, éclairant au loin des grandes lettres d'or qui ornent chaque façade. Physic Street, ainsi que le dit un écrivain qui fit la campagne avec nous, M. Charles de Mutrécy, est la rue la plus fréquentée, la plus bruyante, la plus animée, la plus originale de Canton. Elle offre un tableau saisissant pour l'étranger nouvellement débarqué dans le céleste empire. Située au centre du mouvement commercial, cette rue longue et étroite est envahie depuis le lever jusqu'au coucher du soleil par une foule compacte de marchands et d'acheteurs. Elle vous représente le peuple chinois dans ses habitudes, ses goûts et ses mœurs. Tous les marchands portent leurs marchandises, viandes, légumes, fruits, poissons, etc., dans de grandes corbeilles ou des baquets remplis d'eau. Et ces corbeilles, suspendues aux épaules sur une branche de rotin, ressemblent au plateau d'une balance. Chaque marchand va et vient en poussant un cri spécial. C'est à qui criera le plus fort dans l'espérance d'attirer un chaland. Ce concert bizarre de voix humaines est souvent dominé par les coolies qui portent des palanquins ou des fardeaux et crient en courant « Lei, lei !» La foule se range pour n'être pas heurtée, renversée, et les colis continuent toujours leur course en criant « Lei, lei !» Le faubourg du sud, qui s'étend sur les bords du fleuve Chukyang, n'est pas moins intéressant à visiter. C'est un composé de vastes magasins qui s'avancent jusque dans le fleuve, ce qui permet aux jonques et aux bateaux de toutes sortes de charger leurs marchandises à l'intérieur des magasins, comme cela a lieu dans les docks de Londres. « Monsieur Frédéric, interrompit Horace, est-ce que vous n'avez pas vu dans cette grande ville des fabriques de porcelaine ?»« Pas à Canton, répondit l'officier, mais à Qing Te Ching, l'un des 4 marchés intérieurs les plus importants du Céleste Empire. Comme cet endroit est situé à peu de distance, je m'y rendis facilement. » Et voici à peu près tout ce que je puis vous en dire. Qing Te Ching est entouré de hautes montagnes, d'où les habitants tirent les terres qui servent à la fabrication de la porcelaine la plus fine et la plus recherchée en Chine. La ville porte le nom de l'empereur Qin Te, qui, vers 960, y établit la première fabrique impériale. Et cette fabrique fournit encore la vaisselle et les poteries d'art des palais du prince. Ces produits sont peu répandus dans le commerce, et les rares porcelaines qui en viennent se vendent à des prix très élevés. « Je n'ai pas la prétention de vous apprendre, mes petits amis, » continua M. Frédéric, « que le secret de la fabrication des porcelaines fut importé en France vers 1720 par le révérend père d'Entrecolle, qui a été, en 1712, chef de la mission catholique dans la province de Kiangxi. Depuis cette époque, notre fabrication, d'abord très imparfaite, a fait des progrès immenses, et aujourd'hui elle peut rivaliser comme finesse et comme dureté de pâte avec les plus beaux produits du Céleste Empire. Quant au dessin, toutes les chinoiseries qui ornent les porcelaines de ce pays ne peuvent, je vous assure, soutenir la concurrence de l'art français. Cependant, il faut en convenir, les Chinois, grâce, croient-ils, à la puissance du dieu spécial qui préside à la fabrication de leurs porcelaines et dont l'informe idole orne la salle de peinture de toutes leurs fabriques, ont un avantage que nous ne possédons pas. Le père d'Entrecolle raconte la légende relative à l'origine du dieu. Voici, au ton que je me rappelle, ce qu'il dit à ce sujet. Chaque profession en Chine a son idole particulière. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait un dieu de la porcelaine. On rapporte qu'autrefois, un empereur voulut absolument qu'on lui fît des porcelaines sur un modèle qu'il donna. On lui représenta que la chose était impossible, mais toutes les remontrances ne servirent qu'à exciter de plus en plus son désir. Les empereurs de Chine sont, pendant leur vie, les divinités les plus redoutées du Céleste Empire, et ils croient que rien ne doit s'opposer à leur désir. Les officiers chargés par le demi-dieu de surveiller et d'activer les travaux usèrent de rigueur à l'égard des ouvriers. Ces malheureux dépensaient leur argent, se donnaient bien de la peine et ne recevaient que des coups. L'un d'eux, dans un mouvement de désespoir, se lança dans la fournaise allumée et y fut consumé à l'instant. La porcelaine qui s'y cuisait en sortit, dit-on, parfaitement belle et au gré de l'empereur, lequel n'en demanda pas davantage. Depuis ce temps-là, cet infortuné passe pour un héros et il devint dans la suite l'idole qui préside aux travaux de la porcelaine. Les deux enfants s'amusèrent beaucoup de cette histoire et ils riaient encore de la crédulité des bons habitants de King Taiching quand ils entrèrent dans la ferme où l'officier les conduisait. Monsieur Frédéric eut bientôt terminé l'affaire qu'il amenait chez les braves campagnards. Une heure après, il était avec ses jeunes amis de retour au Conquet.